Gustave le Rouge, les aventures de Todd Marvel, détective milliardaire. Premier épisode, le secret de Wang Tai. Chapitre 1er, la Signora Ovando. Fiévreusement, presque brutalement, une jeune femme en deuil se frayait un passage à travers la cohue bigarrée de ce curieux quartier de San Francisco qu'on appelle le Faubourg d'Orient. Les yeux brillants de fièvre, la face crispée par l'expression d'un désespoir immense, elle allait droit devant elle, sans un regard pour cette foule tourbillonnante où dominaient les Chinois et les indigènes des archipels océaniens, aux parures de coquillages, aux vêtements éclatants et bizarres. Arrivée enfin dans une rue presque déserte, la jeune femme ralentit le pas, secoua d'un geste rapide la poussière qui s'était attachée au bas de sa jupe, remit un peu d'ordre dans les boucles de sa chevelure d'un noir profond et tamponna d'un petit mouchoir de soie ses yeux rougis par des larmes récentes. Elle s'était arrêtée, comme hésitante, en face d'une spacieuse maison à 3 étages, entièrement constituée, comme beaucoup d'édifices bâtis après le dernier tremblement de terre, par des poutres d'acier et des briques. « Pourvu, murmura-t-elle, le cœur serré, qu'on ne me demande pas trop cher. » Elle ajouta en soupirant, « et que cela serve à quelque chose. » Avec une brusque décision, elle ouvrit la grille qui donnait accès dans une avant-cour ornée de géraniums et de jasmins des Florides, et sonna à une porte dans laquelle était encastrée une plaque de nickel, avec cette inscription en gros caractères « John Jervis, Private Detective ». Elle fut introduite par un noir dans un salon d'attente sévèrement meublé de chêne, et dont les fenêtres donnaient sur un vaste jardin. Une sorte de géant blond, à la physionomie souriante, aux yeux bleus pleins de candeur, vint à la rencontre de la jeune femme et lui indiqua un siège. Il parut vivement frappé de l'expression douloureuse qui se reflétait sur le visage de la visiteuse, et aussi de la beauté de celle-ci. Ses traits brunis par le soleil offraient une régularité parfaite. Ses mains tigrées de hâle étaient d'un modèle délicat et le méchant costume de confection dont elle était vêtue accusait des formes élancées. Une taille mince et ronde, des hanches harmonieuses et larges, toute la plastique splendide des femmes de sang espagnol, si nombreuses en Californie. De son côté, la visiteuse ne s'était nullement représentée un détective de cette mine débonnaire et joviale. Il y eut quelques minutes d'un silence embarrassé. « Vous êtes Mr. John Jervis ?» demanda-t-elle enfin. « Non, señora. Simplement son secrétaire et parfois son collaborateur. Mais puis-je savoir ce qui vous amène ?»« Je suis au désespoir, » balbutia-t-elle avec accablement. « Il y a 8 jours, mon mari était vivant. Nous étions presque riches. » Maintenant, je suis veuve et nous sommes ruinés. Ma petite Lolita, qui va sur ses 9 ans, sera sans pain et sans asile. Elle fondit en larmes, incapable d'en dire davantage. Le secrétaire du détective paraissait presque aussi ému que sa cliente. Ne vous désolez pas, dit-il affectueusement. Si quelqu'un peut apporter remède à votre situation, « c'est bien Mr. Jervis. » Il ajouta dans un élan de réelle admiration, « je ne crois pas qu'il y ait un homme plus habile dans l'univers entier. » « Il veut sans doute des honoraires très élevés, » demanda-t-elle anxieusement. « Soyez sans crainte à cet égard, Mr. Jervis n'est pas un détective ordinaire. Il ne réclame d'argent qu'en cas de succès. » Et ses prétentions sont toujours proportionnées à la fortune de ses clients. Mais vous allez lui parler immédiatement. Vous verrez que du premier coup, il vous inspirera confiance. Qui dois-je lui annoncer ? La signora Pepita Ovando, la veuve Ovando, hélas, fit-elle avec une tristesse poignante. Au moment où elle se levait pour passer dans la pièce voisine, à la suite du secrétaire, elle entendit le bruit sec d'un déclic et aperçut dans la muraille en face d'elle une ouverture ronde, cerclée de métal, qui ne s'y trouvait pas l'instant d'auparavant. « Qu'est-ce cela ? » demanda-t-elle avec méfiance. « Oh, ne craignez rien. Mr. Jarvis, par mesure de prudence, a l'habitude de faire photographier toutes les personnes qui pénètrent dans son salon d'attente. C'est sur son conseil que la Central Bank en fait autant, pour tous ceux qui viennent toucher un chèque de quelque importance à ses guichets. Cette simple précaution a déjà donné les meilleurs résultats. » Un peu inquiète, la Señora Ovando pénétra dans une immense pièce qui ressemblait beaucoup plus au laboratoire d'un savant qu'au cabinet d'un homme d'affaires. De hautes bibliothèques voisinées avec des armoires de produits chimiques, des appareils pour la télégraphie sans fil et les rayons X, un gros microscope, et jusqu'à une petite forge mue par l'électricité. Dans un coin se dressait un grand miroir, dont le cadre de porcelaine était hérissé de fils de cuivre qui allaient se perdre dans la muraille. Ce bizarre décor impressionna vivement la signora. À la vue de ces machines dont l'usage lui était inconnu, une étrange appréhension s'emparait d'elle. Elle regrettait presque d'être venue. Elle eut un instant l'impression de sentir planer sur elle de mystérieux dangers. Ce ne fut qu'à force de bonnes paroles que Mr. Jarvis parvint à la rassurer. Le détective, qui paraissait posséder à un degré extraordinaire le don de la persuasion, était un jeune homme de haute taille, à la physionomie pleine de mélancolie et de douceur. Le front élevé, couronné de cheveux bruns, les yeux noirs, pleins de franchise, le menton énergique et la mâchoire un peu carrée des anglo-saxons, il inspirait confiance à première vue. La Señora Ovando fut étonnée de trouver en lui une courtoisie raffinée, une élégance native de manière qui ne pouvait appartenir à un vulgaire policier. Mais en dépit de cette exquise politesse, de cette douceur apparente, elle remarqua qu'il savait, sans élever la voix, donner à ses phrases un ton de commandement qui n'admettait pas de réplique. « Señora, » dit-il, après avoir fait asseoir la jeune femme en face de lui, je vous écoute avec la plus grande attention. Pour que je puisse vous être utile, il est nécessaire que je connaisse les faits dans le plus minutieux détail. Ce ne sera ni long ni compliqué, répondit-elle. Je me suis marié il y a 10 ans et jusqu'à la catastrophe qui vient de me frapper, nous avions été parfaitement heureux. Avant de m'épouser, mon mari avait amassé une petite fortune en travaillant au Mexique, dans les mines d'or. Avec une partie de son argent, il acheta un grand terrain, à 6 000 de Frisco, et fit construire la petite ferme que nous habitons et qu'on appelle la Fazenda des Orangers. Malheureusement, tout cela n'est pas entièrement payé. Et c'est sans doute, interrompit le détective, la somme que vous destiniez à parfaire ce paiement qui vous a été dérobé. Hélas, oui, $3 000 exactement. Mais si ce n'était que cela, mon mari avait rapporté du Mexique une pierre de grande valeur, un diamant rouge, rouge comme un rubis. Oh, ce sont les plus rares. Un diamant pareil, s'il est sans défaut et d'une certaine grosseur, possède une valeur énorme. Comment votre mari ne songea-t-il pas à le vendre pour se faire de l'argent comptant ? Il avait ses idées là-dessus. Il prétendait qu'avec le temps, le prix d'une pareille pierre ne pourrait qu'augmenter. Il faut vous dire que le diamant est gros comme un petit œuf de pigeon et d'une eau irréprochable. « Ce sera la dot de notre Lolita », répétait-il souvent. La Señora s'interrompit. Ses yeux étaient baignés de larmes. « Du courage !» lui dit affectueusement « Mr. Jarvis ». Je sais combien un tel récit doit vous être pénible. L'argent et le diamant, reprit-elle avec effort, était enfermé dans un petit coffre-fort d'acier scellé dans le mur de la chambre à coucher et que nous restions parfois des semaines sans ouvrir, quand mardi dernier, il y a exactement 4 jours, nous trouvâmes notre trésor disparu. « Il n'y avait pas eu d'effraction ?» demanda le détective. « Aucune. Même tout était en ordre dans le coffre. Seulement le diamant et les 3 billets de 1 000 $ s'étaient envolés. Mon mari était consterné. Après avoir fait inutilement les recherches les plus exactes, il porta plainte au coroner du district qui ne fut pas plus habile que nous à découvrir un indice quelconque. « Vous ne soupçonnez personne ?»« Personne. Le pays de ce côté est tranquille. Nous connaissons tous nos voisins et d'ailleurs, ils ne nous font visite que très rarement. » Nous n'avons pour tout domestique qu'un Chinois, Wang Tai, un homme de confiance, employé à la fazenda depuis 4 ans et qui m'est tout dévoué. A-t-il été interrogé? Oui, et on l'a même scrupuleusement fouillé. Sur sa demande, on a examiné avec le plus grand soin la chambre qu'il occupe à côté de l'écurie. Je répondrai de Wang Tai comme de moi-même. D'ailleurs, il n'est jamais à la maison. Il travaille toute la journée dans la plantation. Et il a en nous une telle confiance que la plupart du temps, c'est moi qu'il charge d'expédier dans son pays par la poste les petites sommes qu'il arrive à mettre de côté. La seigneura Ovando s'était arrêtée sous le coup d'une intense lassitude, plus morale encore que physique. Visiblement, ce récit de ses malheurs lui était un torturant supplice. Ce gentleman si correct, aux mains si blanches, aux ongles polis comme des agates, en saurait-il plus que le coroner? Au fond, elle ne le croyait pas, mais il fallait qu'elle allât jusqu'au bout de son douloureux récit. N'était-elle pas venue pour cela? Les sourcils froncés, le regard vague, John Jarvis réfléchissait avec une intensité, une concentration de sa pensée qui, à des regards inattentifs, eût pu passer pour la rêverie d'un homme distrait. Dans le silence, on perçut le grincement léger d'un stylographe courant sur le papier. Dans un coin, le géant blond prenait des notes. Qu'importerait ce vol sans la mort du pauvre Léon Dio, de mon cher époux mille fois aimé? Reprit tout à coup la jeune femme d'une voix rauque, les mains jointes dans un geste de désespoir. On l'a tué? Fit le détective à demi-voix. « Non, répliqua-t-elle, pas cela. Un accident, une fatalité. Aussi, j'avais été trop heureuse. Le malheur nous guettait. Il fallait que cela se produisît. Hier matin, il descendit de très bonne heure, comme de coutume, pour faire le tour dans la plantation. C'était par là qu'il commençait sa journée. » Une heure après, je le retrouvais mort dans l'écurie sur la litière de paille de maïs, à côté du cheval qui, d'un coup de pied, lui avait ouvert le crâne. Le détective était puissamment intéressé par l'exposé de la malheureuse veuve, si poignant dans sa simplicité. « C'est un cheval vicieux ? » interrogea-t-il. « Aucunement, Nero est la bête la plus douce qui soit. Je n'ai pas compris. » Il y a dans cette série de catastrophes quelque chose de mystérieux et de vraiment diabolique. Dans le premier moment, j'étais si désolée, si furieuse, que je voulais abattre moi-même le cheval assassin. C'est le coroner qui m'en a empêché. « Il a bien fait, » dit gravement John Jarvis. Et naturellement, il a conclu à un simple accident. Il eût été difficile de faire autrement. Les pieds de Nero étaient encore barbouillés de sang. Malgré tout, ce qui s'est passé reste inexplicable pour moi. Il me reste à vous dire que le propriétaire auquel nous devons encore 3 000 $ ne serait pas fâché de reprendre son terrain avec les plantations qui nous ont coûté tant de peine et tant d'argent. Si je ne paye pas à l'échéance, il fera un procès, et comment veut-on que je paye? Je ne possède plus rien. Il faut que vous ayez une aveugle confiance en moi, déclara John Jarvis avec autorité. J'arriverai à retrouver vos voleurs. Oh, si vous pouviez dire vrai, balbutia-t-elle en tournant vers lui ses beaux yeux chargés de muettes supplications. Je vous répète qu'il faut me faire confiance, dit-il en dissimulant la profonde émotion qu'il ressentait. Et d'abord, j'ai encore des questions à vous poser. Quand vous vous êtes aperçu du vol, pourquoi ce jour-là plutôt qu'un autre, avez-vous eu l'idée d'ouvrir le coffre-fort? C'est vrai, il y a des choses que j'ai oublié de vous dire. D'ordinaire, nous nous levions dès l'aube, mon mari et moi. Ce jour-là, nous ne nous sommes réveillés qu'à 10 heures passées. Ma petite Lolita, dans le lit et dans notre chambre, a dormi d'un sommeil de plomb jusqu'à midi. Une fois habillée, elle s'est plainte d'un violent mal de tête. Elle prétendait que l'atmosphère de la chambre était imprégnée d'une drôle d'odeur de pharmacie. « Vous n'avez donc pas senti cette odeur ?» demanda le détective avec surprise. « Si, mais nous l'avons expliqué tout naturellement. Je vous ai peut-être dit qu'à la fazenda, nous ne cultivons que des orangers et des citronniers, et précisément la veille, nous avons emmagasiné une grande quantité de fruits dans une resserre qui communique avec notre chambre. Réunis en grand nombre, les oranges, vous le savez, dégagent un violent parfum des terres. C'est à cette émanation que nous avons attribué notre sommeil prolongé et l'odeur de pharmacie dont s'est plainte Lolita. « C'est possible, après tout, » murmura le détective devenu pensif. « L'écorce des oranges contient une certaine quantité d'un éther spécial. Mais pourtant, si cette explication était la bonne, le même fait aurait dû se produire chaque fois que la resserre était pleine de fruits. » Le fait ne s'est produit pourtant que cette seule et unique fois, avoua la jeune femme. Un autre détail que j'avais oublié. La fenêtre de la chambre que j'avais fermée la veille à cause de la fraîcheur de la nuit était entr'ouverte quand nous nous sommes réveillés. Le vent a pu l'ouvrir si elle était mal fermée. C'est ce que nous avons pensé sur le moment. Nous n'y avons attaché aucune importance. Bon, mais... « Vous ne m'avez pas encore dit pourquoi vous avez ouvert ce coffre-fort. »« C'est moi qui en eus l'idée. En me levant, j'avais comme le pressentiment d'une catastrophe. Je m'étais éveillé la tête lourde après une nuit de cauchemar. Sans savoir pourquoi, j'avais le cœur serré par l'angoisse. On eût dit que je sentais venir le malheur qui planait sur notre maison. « Tu vois, dis-je à mon mari, la fenêtre est ouverte. » « Regarde comme il serait facile de nous voler. » Il voulut me rassurer, me montra le trousseau de clés qu'il plaçait chaque soir sur son chevet, à côté de son Browning, et pour me tranquilliser tout à fait, il finit par ouvrir le coffre-fort. C'est alors que nous constatâmes le vol. John Jervis s'est élevé brusquement. « Je vais me rendre immédiatement avec vous à la fazenda, » déclara-t-il. « Quel malheur que vous ne soyez pas venu me trouver plus tôt. » Un dernier renseignement. Quand a eu lieu l'inhumation de votre mari? Demain matin. Cela suffit. Je vous emmène dans mon auto. Je vous recommande surtout, quand nous serons là-bas, de ne pas dire qui je suis. Racontez si vous voulez que je suis venu pour acheter la propriété. Mon secrétaire et ami, M. Floridor Kennel, sur la discrétion et le dévouement duquel je puis entièrement compter, nous accompagnera. Le géant blond auquel ce compliment était adressé quitta le bureau sur lequel il venait de sténographier toute cette conversation. « Je puis peut-être fournir un renseignement intéressant, » dit-il. « Ce matin, de très bonne heure, un peu après l'ouverture des portes, j'étais à la Central Bank. » Les bureaux étaient à peu près déserts. Un Chinois est venu toucher à la caisse un chèque assez important. Le fait m'a d'autant plus frappé qu'il est très rare que les Chinois s'adressent à la banque. Ils préfèrent confier leur argent à l'administration des postes ou aux changeurs usuriers du faubourg d'Orient. « Il me paraît impossible que ce soit Wang Tai, » affirma la jeune femme. « C'est ce que nous allons vérifier immédiatement. » En sortant d'ici, nous passerons par la banque. L'instant d'après, le détective et sa cliente prenaient place dans une luxueuse Rolls-Royce de 150 chevaux. Floridor s'était assis au volant et pilotait la voiture avec une dextérité merveilleuse à travers les rues encombrées. L'auto stoppa devant la majestueuse façade de la Central Bank. John Jervis descendit. Il revint quelques minutes plus tard, la mine dépitée. « Rien à faire de ce côté, » expliqua-t-il. « Il est venu ce matin un Chinois toucher un chèque de 2 500 $, mais il se nomme Ping Fao. On a bien voulu me confier sa photographie que, suivant l'usage de la maison, on a prise sans qu'il s'en aperçût, pendant qu'il attendait à la caisse. La voici. « Ce n'est pas Wang Tai, » fit la Señora Uvando en secouant la tête. D'ailleurs, il n'a pas quitté la plantation. Je vous le répète, c'est le dernier que je soupçonnerai. John Jarvis remit silencieusement la photographie dans son porte-carte et se replongea dans ses réflexions. L'auto avait traversé à toute allure les faubourgs déserts et filait maintenant en quatrième vitesse sur une large route bordée de ces cultures d'arbres fruitiers, orangers, abricotiers, pêchers, qui font de certaines régions de la Californie un véritable paradis terrestre. Partout, les branches pliées sous le poids de fruits, l'atmosphère lourde du parfum des orangers et des citronniers en fleurs était d'une douceur accablante. Il y avait 10 minutes que l'auto roulait à cette vitesse vertigineuse lorsque Floridor tira de sa poche un numéro du San Francisco Evening News qu'il tendit par-dessus son épaule à John Jarvis en disant « Voici ce qui vous concerne. L'entrefilé est souligné. » Jarvis eut un geste mécontent en lisant en petite capitale au-dessus d'un portrait d'homme le titre suivant. Le mystérieux Todd Marvel, le détective milliardaire disparu depuis 6 mois, notre enquête. Mais tout de suite son visage sera serena. Heureusement, cria-t-il à Floridor, qu'ils n'ont pas la bonne photo. Cela peut durer longtemps. Voici ce que contenait l'entrefilet souligné de crayon bleu que John Jarvis lut avec la plus grande attention. On est toujours sans nouvelles de l'honorable Todd Marvel, un des milliardaires les plus distingués de la Société des 500, propriétaire de plusieurs puits à pétrole en Pennsylvanie et d'immenses gisements de chrome et d'iridium récemment découverts au Guatemala. D'un caractère très original, on peut même dire tout à fait excentrique, mais c'est à Todd Marvel qui est doué d'une puissance de logique extraordinaire. S'est pris de passion pour le métier de détective. Un beau matin, il a quitté son palais de la 5e avenue à New York et l'on a été quelque temps sans savoir ce qu'il était devenu. 3 semaines après, affublé d'un pseudonyme, il se faisait arrêter à Chicago les auteurs du vol d'$1 million. Le retentissement de cette affaire fut énorme. Le détective milliardaire fuyait la popularité. Son identité, une fois découverte, il a quitté brusquement Chicago et depuis, on est sans nouvelles de lui. Les uns le croient parti pour l'Amérique du Sud, les autres pour l'Europe. L'immense fortune de M. Todd Marvel ne souffre d'ailleurs aucunement des fantaisies de son propriétaire. Géré par des fonds de pouvoir d'une scrupuleuse probité, largement rétribuée d'ailleurs, elle va sans cesse en augmentant. Ajoutons que toutes les décisions de quelque importance sont prises par lui et son habileté dans les tractations les plus délicates et proverbiales dans le monde des affaires. Dans le clan des milliardaires, c'est actuellement l'homme à la mode, le héros du jour. Il a refusé la main des plus opulentes héritières américaines, comme il a refusé les plus flatteuses propositions d'association des trusteurs les plus en vue. L'engouement pour sa personne atteignait récemment un tel degré que le nombre des héritiers des rois de l'or, du pétrole, de l'acier ou de la viande, regardé comme le nec plus ultra du chic et comme le comble du sport, l'exercice du métier de policier. Il est très difficile de se procurer un renseignement quelconque sur cet étrange milliardaire. Très généreux, très loyal, il a su mettre entre sa personne et la curiosité publique un rempart de serviteurs dévoués qu'aucun argument ne peut décider à rompre le silence. Dans le monde des 500, on observe également à son endroit un mutisme rigoureux. Ce n'est qu'à grand-peine que nous avons pu obtenir d'un de ses amis la photographie que nous publions. Dans l'intention d'être agréable à nos lecteurs que passionne l'énigmatique personnage, nous avons pu mettre à jour un point important, jusqu'ici complètement négligé par ses récents biographes. Il y a une vingtaine d'années, le père de M. Todd Marvel fut assassiné dans des circonstances demeurées obscures, et la moitié de son énorme fortune disparut sans laisser de traces, en même temps que son assassin. C'est dans ces faits maintenant oubliés, mais qui à l'époque firent grand bruit, qu'il faut peut-être chercher l'explication de l'étrange manie policière de l'élégant gentleman. Cette manie, désormais, ne paraîtra plus aussi excentrique à nos lecteurs. Qu'il s'agisse de venger son père ou de récupérer une fortune volée, ce n'est certainement pas pour l'amour de l'art que M. Todd Marvel s'est imposé détective. À bientôt de plus complets renseignements. John Jervis froissa le journal avec colère et le fourra dans la poche de son cache-poussière. Puis il haussa les épaules et sa physionomie reprit sa placidité habituelle. L'auto venait de s'engager dans une allée d'eucalyptus qui aboutissait à la propriété de la Seigneura Ovando.